Journal vous est présenté par Adrien Taufolet. Bonjour Adrien.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Que faut-il craindre de la nouvelle variante du coronavirus détectée au Royaume-Uni ? Pour la première fois, un cas vient d'être dépisté en France, un homme asymptomatique placé tout de suite en isolement. Les autorités se veulent rassurantes quant à sa dangerosité, mais on n'a aucune certitude à cette heure, éclairage de Véronique Julia. Pendant ce temps, les EHPAD de France se préparent à administrer les premières doses du vaccin contre le Covid-19. Le gros de la campagne aura lieu à partir de janvier. Le temps pour les pensionnaires et leurs familles de décider si oui ou non ils acceptent la vaccination. Illustration en Lorraine. La crise sanitaire, il en sera également question après ce journal avec votre invité Chloé.
Oui, la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales. Nous serons avec Pascal Brice, ancien directeur général de l'OFPRA, désormais président de la Fédération des acteurs de la solidarité.
Maintenant, l'accord de Brexit négocié place aux incertitudes liées à son application. Pour les entreprises, mais aussi pour les chercheurs, il demeure beaucoup de zones d'ombre, vous l'entendrez.
Élection présidentielle au Niger. Demain, le président Issoufou quitte le pouvoir après deux mandats, une transition démocratique plutôt rare dans ce pays habitué au coup d'État et qui cache en réalité des atteintes aux droits de l'opposition.
Et puis retour en France avec une mission de réflexion lancée sur les aides publiques à la presse, la question des médias produits par des non-journalistes, précision d'Éric Chavroux. Malgré toutes les précautions, ce n'était qu'une question de temps avant de l'avoir arrivé. Un premier cas de la nouvelle variante du coronavirus vient d'être détecté en France, découvert à Tours. Il s'agit, précise le ministère de la Santé, d'un Français résidant habituellement à Londres, arrivé en France le 19 décembre dernier. Il est asymptomatique et isolé à son domicile, tout comme ses cas contacts. Selon David Nabarro, expert de l'Organisation mondiale de la Santé, cette nouvelle variante du coronavirus semble plus contagieuse pour les jeunes et les enfants, des propos qui interrogent car ils s'ajoutent aux déclarations souvent contradictoires entendues ces derniers jours sur les nouveaux arrivants, sur les nouveaux variants du SARS-CoV-2 identifiés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud. Bref, difficile à cette heure d'obtenir des certitudes, Véronique Julia.
Ils le disent tous, pour l'instant, on manque de données scientifiques pour avoir la moindre certitude. Mais en l'état, beaucoup d'experts en France estiment qu'il n'y a pas lieu de s'affoler. Le variant anglais est-il plus contagieux? Peut-être, car ces mutations affectent la zone qui permet au virus de s'accrocher aux cellules humaines. Serait-il plus transmissible chez les jeunes, comme le suggère un expert de l'OMS? A priori, pas de raison. En tout cas, à ce stade, rien ne le prouve, estime la virologue Anne Goffard.
Au départ, ce mutant-là, ils l'ont surtout trouvé chez les jeunes. Ça, je pense que c'est, je vais dire, un biais sociologique. Qui sont les personnes qui ont le plus de liens sociaux? Globalement, c'est les plus jeunes.
Le variant serait-il plus virulent, plus dangereux? Là encore, rien n'étaye pour l'instant l'hypothèse. Autre question, ces mutations pourraient-elles rendre les vaccins et les tests PCR moins efficaces? Pour l'instant, Anne Goffard n'est pas inquiète, car les vaccins, comme les tests, ont une cible suffisamment large pour rester opérants, malgré une mutation sur un gène important.
Attention, peut-être que dans un an, on dira autre chose, mais à l'heure d'aujourd'hui, on passe pas à côté.
D'une façon générale, explique la virologue, on a tout intérêt à stopper le plus vite possible la circulation du virus, car plus il circule, plus il mute. Les fabricants de vaccins à ARN messager ont déjà prévenu qu'en cas de mutation qui rendrait leur vaccin obsolète, ils seraient prêts à en produire un nouveau en 6 semaines.
Véronique Julia, en attendant, les premières doses du vaccin de Pfizer-BioNTech seront administrées en Europe demain. En France, les 19 500 premières doses sont arrivées aujourd'hui. Elle ne concerne que 2 EHPAD, des établissements de Sevran, près de Paris, et de Dijon, quelques personnes âgées volontaires dans un premier temps. Pour les autres, la campagne dans les 7000 autres EHPAD de France ne démarrera réellement à grande échelle qu'en début d'année prochaine. Dès la semaine prochaine en Lorraine, par exemple, ce qui laisse encore un petit peu de temps pour s'organiser, car les injections devront se faire avec le consentement des pensionnaires ou bien de leur tuteur légal, pour ceux qui n'ont plus les capacités cognitives. Une décision qui n'est pas forcément facile à prendre au sein des familles, comme a pu le constater Thierry Collin à Nancy.
Faire vacciner ou ne pas faire vacciner, la question taraude de nombreux tuteurs légaux, notamment Chantal Briand. Sa mère a 92 ans et réside en EHPAD et elle a développé de multiples pathologies, dont une démence vasculaire.
C'est à nous que revient la lourde responsabilité de décider en fonction de critères qu'on n'a quasiment pas, quoi. Et là, on a l'impression que tout nous échappe, que finalement on va, je ne vais pas dire tous jouer aux apprentis sorciers, mais un peu.
Si c'est à elle que revient la décision, la fille a quand même consulté sa mère.
Elle m'a même dit, celui qui arrive avec une piqûre dans ma chambre, je lui jette un seau d'eau.
pour Paulette, donc, ses nièces, décision partagée par sa fille, elle n'est pas très rassurée par cette campagne.
On n'a pas envie, on va dire, de rajouter à tous ces problèmes, surtout qu'en ce moment, même physiquement, elle n'est pas bien, quoi. Donc on se dit, ne serait-ce qu'une fièvre à plus de 40, on ne sait pas comment elle peut la gérer. On n'a pas peur des vaccins en général, hein. Moi j'ai fait vacciner mes enfants, on a peur de ce vaccin-là.
Et c'est loin d'être un cas isolé, Claire-Marie Lemonnier gère l'EHPAD de Colombey-les-Belles.
L'idée, c'est de pouvoir rencontrer chaque personne âgée de manière à pouvoir en parler, essayer de lever les résistances, d'arriver à un consensus.
Un travail de fond qui s'annonce long pour les équipes des maisons de retraite. Certaines ont déjà commencé à dialoguer avec les familles et les résidents.
Reportage de Thierry Collin pour France Culture.
Il est 8h05, Adrien Toffolet. La France a enregistré un peu plus de 20 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures.
Un chiffre élevé qui s'explique en partie par les fêtes de Noël, l'augmentation des tests réalisés avant les retrouvailles avec sa famille. Il faudra attendre quelques jours, voire plusieurs semaines, avant de pouvoir mesurer l'impact de ces moments de proximité sur les chiffres de l'épidémie. Plusieurs pays européens n'attendent pas et reconfinent à partir d'aujourd'hui pour tenter d'endiguer la deuxième vague. Tour d'horizon avec Valérie Crova.
L'Autriche va instaurer un troisième confinement et durcir les règles avec des sanctions plus sévères pour les récalcitrants aux tests. Un couvre-feu s'applique à nouveau dans tout le pays et pendant la journée. Les magasins, librairies, musées et écoles, qui avaient rouvert début décembre, sont à nouveau fermés jusqu'au 18 janvier, tout comme les hôtels, les restaurants, les salles de sport et les salles de spectacle. Seule exception, les remontées mécaniques dans les stations de ski, dont l'ouverture est laissée à l'appréciation des autorités régionales. L'Irlande du Nord et l'Écosse resserrent également la vis avec un reconfinement à partir d'aujourd'hui. L'Écosse, où les vacances scolaires ont été prolongées jusqu'au 11 janvier. Au Luxembourg, pays européen qui enregistre le plus fort taux d'incidence, le couvre-feu a été avancé à partir de 21h. Les écoles du Grand-Duché ne rouvriront pas avant le 10 janvier. Quant aux Polonais, ils profitent encore d'un petit répit puisqu'ils ont jusqu'à lundi avant d'être reconfinés pour une période de 3 semaines.
Bientôt la fin du calvaire pour les routiers bloqués dans le sud de l'Angleterre. Depuis mercredi, 4500 camions ont pu quitter le Royaume-Uni selon les autorités britanniques qui ont redoublé d'efforts afin de fournir des tests de dépistage au Covid avec plus de 1000 militaires déployés en renfort. Après un Noël passé dans le camion dans des conditions très difficile, parqué près du tunnel sous la Manche et du port de Douvres. Les derniers chauffeurs devraient réussir à partir dès aujourd'hui. On reste au Royaume-Uni avec les incertitudes qui demeurent malgré l'accord de Brexit. Cela doit être un cadeau de Noël, signé le 24 décembre. Cela reste un divorce dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences. Certes, le texte de 1200 pages négocié pendant 4 ans et demi par Boris Johnson et l'Union Européenne était nécessaire pour éviter le grand plongeon dans l'inconnu qu'aurait été le no deal. Mais pour les entreprises, accord ou pas, le contexte post-Brexit reste périlleux à plus d'un titre, car elles vont devoir apprendre à composer avec un certain nombre d'incertitudes. Explication signée Fabien Cazot.
Première interrogation, quelle traduction concrète trouveront les engagements pris par le Royaume-Uni ? Sur le papier, les Britanniques promettent de respecter une concurrence loyale en matière sociale ou environnementale. Reste à savoir quelles normes seront édictées par Londres dans les prochains mois, une fois la Grande-Bretagne affranchie des règles européennes. Il y a aussi la question des frontières. L'accord signé jeudi ne rassure pas totalement ce chef d'entreprise, Gwenaël Le Quint. Il dirige la société Virquin qui fabrique des sanitaires des deux côtés de la Manche.
Comment ça va se passer réellement avec les délais d'attente? On a déjà intégré dans notre plan de production des délais de 15 jours supplémentaires liés au transport. Ça a quand même des conséquences importantes sur les stocks, hein. Quand vous rallongez les délais d'approvisionnement de 15 jours, le volume stocké est plus important. Donc, c'est pas forcément simple pour les industriels, mais bon, c'est une moins mauvaise nouvelle que d'avoir un no deal.
Tout en se réjouissant d'éviter un no deal, les entreprises s'inquiètent d'une ouverture réciproque des marchés qui ne soit pas garantie à 100%. L'accord prévoit d'ailleurs un possible retour des droits de douane en cas de litige sur son application.
Autre interrogation, autre domaine touché par cet accord post-Brexit, celui de l'abandon du programme Erasmus par la Grande-Bretagne. Trop cher, a justifié le Premier ministre britannique. Une annonce qui touche les étudiants, mais aussi les chercheurs et leurs divers financements. Juliette Pietraszewski.
Erasmus et la Grande-Bretagne divorceront officiellement après l'année universitaire 2021-2022. Les projets communs entre les enseignants britanniques et européens seront plus compliqués à mettre en place. C'est en tout cas ce que pense Claudia Sempel, directrice des relations internationales à Burgundy School of Business, école de commerce à Dijon.
On envoyait régulièrement des professeurs sur une durée d'une semaine Et c'est financé donc par Erasmus pour le déplacement du professeur. Ça permet aussi de travailler sur son réseau à l'international pour justement avoir des contacts avec d'autres enseignants-chercheurs pour travailler ensemble sur des articles, sur des projets. Et ça ne va plus être possible parce que ça ne sera plus financé.
Certains chercheurs de Grande-Bretagne n'ont pas attendu le Brexit pour migrer vers d'autres universités européennes cette année. C'est le cas de Yann Fiedermuck, chercheur en économie. Il a préféré quitter l'université de Brunel près de Londres pour celle de Lille. Un choix motivé par des raisons personnelles et professionnelles. Au-delà d'Erasmus, l'universitaire avait peur de ne pas pouvoir participer au programme financé par l'Union européenne, comme le programme Horizon 2020.
C'était un des aspects pratiques qui m'a poussé à partir. Si j'étais resté au Royaume-Uni, j'aurais potentiellement dû tirer une croix sur mon programme financé par l'Union européenne. La Grande-Bretagne allait finalement faire partie, mais ce n'était pas assez clair. C'était quelque chose de très important pour moi professionnellement, et en restant là-bas, je prenais le risque d'être exclu de ce financement.
Yann Fiedermuck confirme aussi s'inquiéter de la fin du programme Erasmus en Grande-Bretagne pour les étudiants, parmi eux de potentiels futurs chercheurs.
Juliette Pietraszewski pour France Culture.
En Centrafrique, la menace de nouvelles violences pèse sur les élections présidentielles et législatives de demain.
Hier, la trêve de 72 heures pourtant à l'initiative des groupes rebelles a été brisée par ces derniers. Plusieurs attaques ont eu lieu, dont une à Dekoa dans le centre du pays. Trois militaires burundais appartenant au casque bleu ont été tués par des combattants armés non identifiés. Deux autres soldats ont été blessés. Les rebelles réclament toujours l'annulation des scrutins dont ils critiquent l'organisation par le président sortant et candidat à sa réélection, Faustin Archange Touadéra. Il menace de marcher sur la capitale Bangui. Au Niger, en revanche, le président sortant Mahamadou Issoufou va quitter le pouvoir après deux mandats, conformément à la constitution du pays. Les Nigériens sont appelés aux urnes pour lui trouver un successeur, ce qui donne l'espoir de voir une transition démocratique sans accroc dans ce pays qui a subi plusieurs coups d'État depuis son indépendance en 1960. Toutefois, la fin de l'ère Issoufou ne laisse pas l'opposition en position d'espérer prendre plus de place dans la vie politique du Niger. À Niamey, la correspondance de Léopold Picot.
En 2017, Emmanuel Macron avait déclaré que le président Issoufou était un exemple pour la démocratie. Samira Sabou est une journaliste nigérienne. Elle a passé 48 jours en prison après avoir été accusée à tort de diffamation.
L'espace civique s'est complètement rétréci. Faites un message par WhatsApp, un message personnel hein, d'un individu à un autre. Ce message peut vous conduire immédiatement en prison. Avec la loi sur la manifestation sur la voie publique, on ne peut pas manifester au Niger du lundi jusqu'au vendredi.
Les défis nigériens sont multiples. Le pays est cerné par les djihadistes à l'est et à l'ouest. Près de la moitié de la population vit avec moins de 1,30€ par jour. La démographie explose. Et la croissance de ces dernières années, fierté de Mahamadou Issoufou, ne suffira pas à compenser l'augmentation de la population. Le président Issoufou laisse sa place, mais il marque toujours la vie politique nigérienne. Le candidat qui s'est imposé dans le parti présidentiel, Mohamed Bazoum, a choisi le fils du président actuel comme directeur de campagne. Son programme électoral s'appelle Renaissance 3, une sorte de renaissance inspirée des programmes Renaissance 1 et 2 du président Issoufou lui-même.
Et puis ces dernières semaines, les attaques de djihadistes se multiplient à mesure que se rapproche le scrutin. Deux attaques de Boko Haram notamment ont fait 34 morts chez les civils et 5 chez les militaires. Retour en France où le ministère de la Culture se penche sur le dossier des aides à la presse. Une nouvelle mission de réflexion vient d'être lancée par Roselyne Bachelot avec pour horizon de rendre ses conclusions en mars prochain. Avec une question centrale cette fois dans ce dossier récurrent sur la composition des rédactions, ceux qui produisent les contenus. En l'absence de journalistes professionnels, les rédactions peuvent-elles continuer à être subventionnées? Une interrogation qui, dans cette période de défiance envers les médias, fait écho à la situation qui se dégrade depuis plusieurs mois au sein du magazine Science et Vie, Eric Chavroux.
Depuis des années, les aides à la presse sont remises en question. L'État doit-il autant aider des médias? Lesquels? Pourquoi? Les réflexions se succèdent et il demeure aujourd'hui une petite vingtaine d'aides à la presse pour un montant de 840 millions d'euros en 2020, auxquels vont s'ajouter près de 500 millions d'euros sur deux ans pour cause de Covid. Mais cette fois, l'argument mis en avant par la rue de Valois est au cœur d'un double contexte, la multiplication des infox en temps de pandémie et une crise aiguë à Science et Vie. La mission confiée à la conseillère d'État Laurence Franceschini repose ainsi, selon le ministère, sur la séparation nette entre l'information et la publicité, nécessaire pour accentuer le lien de confiance entre les médias et le grand public. Des 6000 rédactions dépourvues de journalistes peuvent-elles encore bénéficier de subsides de l'État ? Les changements récents constatés dans les rédactions de certains titres plaident pour un renforcement de l'exigence journalistique, répond déjà Roselyne Bachelot, une allusion à peine voilée à la dégradation des conditions de travail à Science et Vie. Les journalistes du titre de référence, créé en 1913, se battent en effet depuis des mois contre leur repreneur, ReWorld Media, qui promeut des chargés de contenu avec des statuts d'auto-entrepreneurs. La Société des journalistes de Science et Vie s'est donc naturellement réjouie que le ministère se saisisse ainsi du dossier.
Le temps sera gris et froid aujourd'hui, les nuages avec des averses de la Loire à la frontière belge, en Méditerranée en revanche grand soleil. Les températures minimales ce matin évoluent entre moins 1 et 6 degrés, cet après-midi entre 0 et 12 degrés.
Merci Adrien Toffolet. Au programme de la deuxième heure des matins du samedi, la revue de presse des idées avec Ilan Malka, à 8h30 en forme de bilan de l'année. Le prix Nobel de physique Serge Haroche nous parlera de peinture et donc de lumière dans l'idée culture à 8h45 avec Matteo Caranta. Et puis à 8h52, Jackie Durand nous proposera un voyage culinaire sur le continent africain. Mais avant tout cela, et dans quelques instants, notre invité, Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité.